Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Tu es là au milieu de nous, tu es dans cette salle. Merci parce que, comme on disait récemment, le Père, tu es au ciel. Jésus, tu es aussi au ciel. Mais Saint-Esprit, c'est toi qui es ici, cette personne divine au milieu de nous, sur la terre. Et nous nous laissons toucher par toi et nous prions ce matin que tu viennes parler à nos cœurs encore et encore. Merci pour ta présence, Seigneur, pendant ce temps de louange. Merci parce que tu parles, tu presses nos cœurs, tu nous touches, Seigneur. Merci pour ta vie, merci pour ce sacrifice. Merci pour cette puissance qu'il y a, Seigneur, dans l'œuvre de la croix, Seigneur. Ce sacrifice pour nous tous. Merci pour cette libération, cette guérison, cette paix, cet amour que tu nous donnes. Parce que toi, tu as pris, Seigneur, cette oppression, tu as pris la condamnation. Tu as pris la maladie, tu as pris la mort pour qu'on soit libre, qu'on soit touché, qu'on soit restauré, qu'on soit guéri, qu'on soit dans la paix par toi. Alléluia. Amen. Merci à toute l'équipe Louange qui nous a vraiment amenés devant le trône, devant le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'on est là. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour lui. On a vraiment envie, quand on se réunit, de louer le Seigneur, de l'adorer, de lui offrir un culte. On est là venir lui offrir un culte et offrir aussi nos vies comme ces bûches. On est venu s'offrir au Seigneur pour l'adorer plus au-delà de moi, mais aussi par nos vies, nos cœurs, nos corps. Et alors que je prenais l'autre jour un temps pour prier et que différents sujets de prière me venaient en tête, j'ai eu cette pensée du Seigneur qui s'est imposée et qui me disait « Mais élève mon nom, prie dans l'esprit, sois à l'écoute ». Avec cela, tu vas voir ma vie, ma puissance se manifester et mon nom être glorifié. C'est cela le verset « Cherchez premièrement le royaume et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. » Amen. Et c'est comme si je réalisais tout à coup que le Saint-Esprit, il voulait rendre vivant en moi un des versets les plus connus de la Bible. Et des fois, il est tellement connu qu'on sait déjà ce qu'il veut dire, qu'il nous parle des fois même plus trop. Mais ce passage de Matthieu 6, 33, c'est vraiment une clé, parce que c'est là, des fois, c'est souvent là que ça coince. Et j'aime tellement ces traductions de The Message et The Passion en même temps cumulées qui disent « Avant tout, recherchez avant tout le royaume de Dieu et la justice qui en découle. Ne vous inquiétez pas de passer à côté de quelque chose. Vous verrez que tous vos besoins quotidiens seront comblés. » Et lorsqu'on prie, souvent, on aimerait expliquer à Dieu, on aimerait tout lui raconter, qu'il comprenne vraiment la situation. Et parfois, on aimerait même lui expliquer comment répondre, parce qu'on sait tellement bien comment ça faudrait faire, pour être sûr qu'il réponde de la bonne manière. « Ah Seigneur, tu vois ceci, puis cela, puis tu n'as pas vu, puis tu vois ça, puis ce que je ressens. Puis ça serait tellement bien si tu pouvais agir comme ça, puis tu vois ceci, puis cela. » Puis on y explique toutes les choses. Alors d'un côté, dans une amitié, puis dans une intimité avec Dieu, ce n'est pas faux de partager à Dieu ce qu'on ressent, mais j'aimerais dire que c'est que le début. Dieu veut une relation et une vie de prière qui va au-delà de lui dépeindre les différentes situations qu'on vit ou que d'autres vivent. Comme un petit enfant qui va faire plein de dessins et puis qui les donne à ses parents. C'est comme ça qu'il voit les choses, plus ou moins. Ça ressemble plus ou moins à la réalité des fois, si vous avez été parent et puis que vous avez reçu ces nombreux dessins. Mais suivant la période, en tant que parent, vous commencez à entasser quand même pas mal, une pile de dessins. Mais Dieu, il veut pas juste, Dieu désire pas juste collectionner nos prières comme des dessins qui décrivent nos situations. Et enfin, on attend qu'il y ait un petit soleil dans le coin de la page qui vienne. Mais il désire aller au-delà de ça. À ses disciples, d'ailleurs, il a enseigné comment prier avec Matthieu 6, on le voit notamment dans Matthieu 6, 9, où il dit, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Et c'est cette prière qu'on connaît, hein. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette deuxième partie, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et c'est ça qu'on a pu prier avant. Mais la première partie de cette prière, que cette volonté du ciel se manifeste sur la terre, c'est vraiment une prière de haut en bas. C'est une prière du ciel sur la terre. Et ensuite, la deuxième partie de cette prière que Jésus enseigne, c'est une fois que cette vie, que cette volonté, une fois que ce ciel y descend en nous, elle nous touche, ça nous touche, ça nous transforme ici en bas, son règne pourvoit et ça nous permet d'être pardonné, ça nous permet de pardonner les autres, ça nous permet de tenir bon face à la tentation, ça nous permet d'être délivré du mal. Mais c'est une prière de haut en bas, c'est une prière qui amène le ciel sur nos circonstances. Et souvent, les prières qu'on fait, c'est un peu des fois l'inverse. On décrit la terre, la situation, et puis on la fait monter au ciel. C'est comme ça, c'est ces dessins. On fait un dessin à Dieu de ce qu'on vit, et puis on y envoie pour qu'il les transforme. Alors que le principe de Dieu, c'est vraiment de manifester sa puissance et sa gloire au siècle des siècles, comme le dit la prière. Mais c'est lorsque notre prière, elle n'est pas de bas en haut, mais c'est comme Jésus l'enseigne, elle est de haut en bas. C'est-à-dire qu'on va plutôt décrire le ciel, le règne, déclarer la volonté de Dieu, la volonté du Père qui est au ciel, sur nos circonstances. C'est ça une prière de haut en bas. C'est ça la prière qui est efficace. Même si je suis d'accord, c'est juste d'épandre son cœur à Dieu, de lui dire ce qui nous préoccupe. Mais pour moi, c'est plus un dialogue qu'on a avec lui, si ce n'est pas des fois un monologue. Mais la prière efficace du juste, c'est celle que décrit Jésus à ses disciples, qui va changer nos vies et qui va changer la vie de ceux qui nous entourent. C'est celle qui va nous amener à être transformés, à marcher dans la grâce et du coup à pouvoir pardonner, à pouvoir libérer la grâce autour de nous et à être délivrés aussi nous-mêmes du mal et à délivrer les autres aussi du mal, à résister nous-mêmes à la tentation et du coup aussi amener la vie et l'espérance autour de nous. Et ça, c'est la deuxième partie de cette prière. C'est ce que fait cette prière, l'effet que ça fait sur nous. Ce sont des prières du ciel sur la terre qui font ça. Et comme je vous ai déjà tellement de fois partagé que Jésus ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire au ciel, ou quand il dit dans Luc 22, alors qu'il est dans ce jardin de Gethsémané, peu avant la croix et qu'il souffre, il dit « Mais Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe !» Et puis il va dire toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et Jésus, il aurait pu faire un dessin aussi par une belle prière, un dessin bien sombre de tout ce qu'il vit. Il était angoissé, pris par la peur, par la mort qui s'approchait vraiment de plus en plus de lui. Et sa prière n'a pas été de faire un dessin au Père de son vécu, mais de dire au Père que sa volonté là-haut se manifeste ici sur la terre. Parce que Jésus, il n'est pas juste un beau parleur, mais dans le pire moment de sa vie, il va mettre en pratique le Notre Père, c'est-à-dire cette prière qui descend le règne et la volonté du Père sur la terre, plutôt que la sienne. Et je suis convaincu que ce qui va transformer nos vies, c'est lorsqu'on prie de haut en bas et non pas de bas en haut, si vous voyez ce que je veux dire. C'est Matthieu 6, 33, c'est exactement ça. Je cherche le royaume en premier au ciel et il s'occupe de tout sur la terre. Comme phrase, on pourrait dire les choses ainsi. La vraie prière, ce n'est pas de supplier d'en bas, c'est déclarer d'en haut. Parle comme une fille, parle comme un fils, pas comme un mendiant. Dans Actes 3, Pierre et Jean, ils voient un boiteux. Ce n'est pas juste qu'ils boitaient un petit peu, ça peut être, le mot veut même dire quelqu'un qui aurait peut-être jamais marché. Et Pierre va lui dire, ici sur la terre, moi je n'ai pas grand-chose, mais il y a quelque chose ici que j'ai envie de descendre sur ta vie. Il a dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, j'ai rien d'humain ici. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Donc Pierre, il ne fait pas monter du style une prière avec où il décrit comme un dessin qu'il envoie au ciel en disant, Seigneur, s'il te plaît, tu vois comment il souffre. Ça fait des années qu'il boite, qu'il est là devant le temple. Personne ne s'occupe de lui. Non, il va déclarer le ciel sur la terre en disant « j'ai pas de moyens ici, je peux rien faire, mais j'ai reçu un trésor du ciel qui est ici en moi et je vais utiliser ce trésor du ciel ici qui est en moi. Lève-toi, marche. » Il prend autorité et le guérit au nom de Jésus. Il déclare ce qu'il a reçu de Dieu en lui qui vient de haut en bas sur le boiteux et pas juste de bas en haut comme une... où il mendie vers le Seigneur. C'est une prière de vie, c'est une prière de l'esprit. Ce n'est pas une prière humaine, une belle description. La prière, des fois, elle est efficace, elle est tellement efficace. C'est comme une épée à deux tranchants. Et des fois, on pourrait utiliser cette épée en essayant de taper avec le manche. Et ça ne fait pas beaucoup d'effet, mais on va plutôt souffrir, nous, parce qu'on tient l'épée dans la main et on souffre, on prie, on continue de souffrir et de demander, et puis il y a peu d'impact parce qu'on tape, on a peut-être l'épée dans le faux sens. Ce n'est pas efficace et c'est nous qui souffrons. Et quelques exemples de prières du ciel vers la terre, c'est au lieu de dire « Seigneur, tu vois ma maladie », de proclamer « Mais par les meurtrissures de Jésus, la guérison du ciel descend maintenant sur mon corps », selon Ésaïe 53, ou bien au lieu de dire « Seigneur, tu vois comme je suis faible, je suis crevé aujourd'hui, je n'ai pas la pêche », je déclare « Mais ta grâce, ta puissance me suffit et s'accomplit dans ma faiblesse », 2 Corinthiens 12. Ou bien au lieu de dire « Seigneur, protège-moi de mes ennemis ou tu vois ces problèmes », je vais proclamer « Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde », de 1 Jean 4:4. Ou bien au lieu de décrire les ténèbres autour de moi et tout ce qui est oppressant dans le monde, tout ce qui m'oppresse et assombrit ma vie, je vais proclamer que la lumière soit, comme au commencement, la lumière éclaire mes circonstances aujourd'hui, selon Genèse 1:3. Et je ne vais pas envoyer un xème dessin, je ne vais pas envoyer un xème dessin au Seigneur de ce que je vis, mais je dessine le ciel, je vais dessiner vraiment le ciel sur mes circonstances. Je vais dessiner le ciel sur mes circonstances plutôt que d'essayer de faire comprendre à Dieu ce que je vis, qui n'est pas facile. Et pour finir ce point, je vais vous transmettre quelques citations vraiment qui percutent, mais qui vont comme asseoir cette pensée en nous. La première, c'est le pasteur sud-africain André Murray qui a dit la chose suivante. La prière n'est pas de demander à Dieu ce que nous voulons, mais de lui permettre de nous donner ce qu'il veut. C'est ça la prière de haut en bas. Ou un autre, un pasteur chinois, Watchman Nee, a dit la chose suivante. Si ça suit. La prière, c'est aligner la volonté de l'homme à celle de Dieu, et non pas de chercher à aligner la volonté de Dieu à celle de l'homme. Ça veut dire non pas « exauce ma volonté », mais c'est « que ta volonté soit faite ici ». Et dans le cas de Jésus, dans Gethsémané, la volonté du Père, ce n'était pas la même que ce que lui aurait bien voulu. Et je terminerai ce premier point de ce message, qui est de prier de haut en bas, avec notre cher Bill Johnson, qui va dire la chose suivante. Quand je prie, je ne veux pas décrire mes montagnes à Dieu, je veux dire à mes montagnes qui est mon Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu ça, mais c'est tellement ça, ce premier point. Quand je prie, je ne veux pas décrire mes montagnes à Dieu, il les connaît déjà, mais je veux dire à mes montagnes qui est Dieu. Et c'est ça qui change, c'est ça la prière de haut en bas. Et ça, ça résume, cette citation, elle résume vraiment ce premier point que je voulais partager avec vous ce matin. Et je suis absolument convaincu que d'entrer dans cette vie de prière-là, c'est une clé pour que nos vies soient transformées ou pour que les choses pour lesquelles on prie changent. Et vivre cette vie de prière du Notre Père, du ciel sur la terre, nous amène vraiment dans cette vie de victoire. Et je crois que c'est la suite d'une intimité avec Dieu où on lui raconte nos journées, nos préoccupations, où on l'écoute. Et ça, c'est génial. Il faut cette amitié, cette intimité avec le Seigneur. C'est notre ami, notre confident. Le Saint-Esprit marche avec nous tous les jours. Il faut. Mais cette amitié avec Dieu qui est géniale, qui est fondamentale, va nous amener à vraiment devenir ces hommes, ces femmes qui prient selon le ciel sur la terre pour faire la différence. Je suis aussi convaincu avec ce qu'on vient de voir là, n'est possible qu'en vivant par l'Esprit. Et c'est mon deuxième point ce matin, c'est vivre et prier par l'Esprit. On a été créé à l'image de Dieu, qui est Père, Fils, Saint-Esprit, et nous on est aussi corps, âme, esprit. Alors on peut prier avec Dieu physiquement, ben oui, en étant à genoux, ou bien en bougeant. Moi souvent quand je prie en groupe ou seul, je me balade chez moi, je bouge, j'arrive pas tellement à prier en étant assis. On peut prier avec notre âme, nos émotions, nos états d'âme, notre intelligence, notre compréhension, on comprend ce qu'on dit et puis on lui explique des choses. Ou on peut aussi prier par l'Esprit. Et justement, prier du ciel sur la terre, ça demande l'Esprit. Et par nous-mêmes, souvent, on peut rester centré sur nos soucis, nos besoins ou les besoins des autres, nos limites, ce qui nous touche dans nos émotions, on va le prier. Et ça produit des prières de la terre vers le ciel. Mais seul l'Esprit peut nous connecter à la volonté du Père qui est en haut et puis nous donner ces mots du ciel qui vont changer les circonstances. Donc la vie de prière puissante, ce n'est pas une question technique, ce n'est pas de ça que je vous parle, vous verrez où on arrive avec ce message, mais c'est de vie dans l'Esprit. Et 1 Corinthiens 3, Paul il fait la différence entre le chrétien humain, c'est-à-dire charnel, et le chrétien spirituel. Et un chrétien charnel, il va prier selon sa compréhension, selon sa vue, selon ses émotions. Et un chrétien spirituel va prier selon l'esprit et déclarer ce qui est vrai du ciel sur la terre. Et on l'a vu avant, je ne vais pas me répéter, mais vous montrer que la clé pour pouvoir vraiment le vivre, c'est la vie par l'esprit. D'ailleurs, Romains 8, 26 nous dit la chose suivante. Romains 8, 26 nous dit de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et pour moi, si on a réalisé que l'étape qui va nous faire aller plus loin est de prier par l'Esprit, ça va transformer nos vies. Ça transforme nos circonstances. Et j'en suis convaincu que ça va impacter notre entourage. Mais comment ? Comment vivre ça ? Ce n'est pas une difficulté de plus que je vous partage, mais c'est plutôt une clé qui permet de déverrouiller le ciel, la vie de l'Esprit sur terre. Et cet homme de réveil, John G. Lake, je vous en ai déjà parlé, et je vous avais même dit, il a vu des milliers de guérisons, mais c'était tellement puissant ce qu'il vivait, qu'il avait même lancé le défi et le challenge au médecin de l'époque de lui mettre dans la main des cellules de poumons infectées par la peste. Et ils ont regardé au microscope, et ces cellules ont été désintégrées, tellement la puissance de Dieu était en lui. Et il a dit la chose suivante. L'homme rempli de l'esprit devient une extension de la volonté de Dieu sur terre. Quand on est rempli de l'esprit, on va proclamer, on va dire, on va prier les choses et on va étendre la volonté de Dieu sur terre. Et pour moi, c'est la piste et la porte que Dieu désire ouvrir pour qu'on puisse être ces hommes, ces femmes qui sont des extensions de la volonté de Dieu sur terre. C'est ça, vivre par l'esprit. Et ce matin, j'aimerais vous partager cette clé. Mais comment ouvrir cette porte ? Qu'est-ce qui permet de vivre par l'esprit ? Parce qu'on pourrait se dire « Amen, on est tous d'accord, Amen David pour ce message, gloire à Dieu ». Mais comment le vivre concrètement ? Comment ? Et pour ça, j'aimerais déjà vous partager un peu l'exemple de l'apôtre Paul, lui qui a véritablement vécu ce ciel sur la terre. Et pour qu'il le vive, déjà il a été percuté lui-même par le ciel, si on peut dire ça comme ça. Il était pourtant ce qu'on peut appeler un homme bien dans la religion, un érudit, un homme trempé dans la parole. Par contre, il était irrité par ces chrétiens qui avaient découvert que par Jésus, sa mort, sa résurrection, on pouvait vivre sa foi sans tout le tralala de la loi. Et ça remettait en question tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il connaissait. Et en plus, ces chrétiens qui vivaient un réveil spirituel suite à un déversement de l'esprit à la Pentecôte, ça a dû l'irriter intérieurement. Lui qui préférait ce qui était rationnel, ce qui était scripturaire selon l'Écriture. Puis de voir des hommes et des femmes, certains même sans background, sans formation comme lui, parler des choses de Dieu, prier pour les gens et voir Dieu agir ainsi, ça passait mal pour lui. Mais ce qui a fait changer Paul et le faire passer d'un croyant, j'allais dire charnel, à un chrétien spirituel, c'est une action de Dieu et justement une voix qui est venue du ciel sur la terre. Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ? Et il est tombé à terre, complètement bouleversé par cette lumière, cette voix, cette révélation. Mais qu'est-ce qui va le faire changer ensuite ? Ça a commencé déjà par un homme, Ananias, qui va lui dire dans Acte 9, « Saul, mon frère, le Seigneur, Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue, il se leva et fut baptisé. Il fut baptisé, aussi une étape importante. Mais il va être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est le début de Paul qui va commencer à ne plus vivre selon la chair, mais selon l'Esprit. Et quand on voit ce qu'a fait Paul ensuite, c'est complètement fou. Paul, il était animé par une passion brûlante. Conduit par l'Esprit, il a voyagé, il a traversé les mers, les océans, enfin plutôt les mers, les continents, à Philippe, à Thessalonique, à Corinthe, à Éphèse, partout il implantait des églises qui sont devenues des phares vraiment dans l'Empire romain. Et partout où il passait, il y avait des signes qui suivaient ses messages. À Lystre, un boiteux a été guéri. À Philippe, un esclave a été délivré. À Troas, un jeune homme qui est tombé en bas la fenêtre puis qui est mort, Eutychus, il prie pour lui, il ressuscite. Rien ne pouvait arrêter l'œuvre de Dieu au travers de lui. Et même en prison, Paul ne s'est pas tu. Depuis sa cellule, il a écrit certaines de ses lettres les plus puissantes et encourageantes qu'on trouve dans la Bible, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, à Philémon. Et ces lettres sont là encore, puis nous parlent aujourd'hui par la Bible. Elles font partie de la Bible. La vie de Paul, c'est vraiment la preuve qu'une vie conduite par l'Esprit peut accomplir l'impossible. Amener ce ciel sur la terre et laisser un héritage qui traverse les siècles. Aujourd'hui encore, 2000 ans après, on parle de ce qu'il a vécu. Mais quel était ce secret? Quel était son secret à Paul? Lui qui était si rationnel, si normatif, si intellectuel. Quel a été son secret pour finalement non seulement se convertir, certes ensuite baptisé par le Saint-Esprit, mais comment il a fait pour si vite grandir dans l'Esprit et vivre toutes ces choses? Je vous ai résumé en 3-4 paragraphes, mais c'est un quart du Nouveau Testament. Quel était son secret pour entendre Dieu lui parler comme ça, pour voir tant de guérisons et des gens se convertir? Quelle était la clé qui lui permettait d'ouvrir cette porte pour vivre le ciel sur la terre? Qu'est-ce qui lui a permis de ne pas finir découragé, lui qui a fini en prison en tout cas 3 fois, et en calculant, c'est entre 4 et 5 ans de sa vie, il était derrière les barreaux. Et ce n'est pas des prisons comme ici, avec télé couleur et puis je ne sais pas quoi, et frigo. Lui qui n'a pas renié la foi, quel a été son secret pour tenir bon, et même louer Dieu dans ces circonstances-là, et même écrire des lettres à des églises et à des personnes pour les encourager, alors que c'est lui qui est en tôle. Lui qui va même dire dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », alors qu'il est en prison. C'est complètement fou si on y pense. Cet homme-là, il avait un secret. Il avait un truc. Il en parle d'ailleurs quand même assez passablement, mais souvent, c'est comme un à côté. Mais je suis convaincu que c'est la clé qui va lui permettre à Paul de vivre le ciel sur la terre. C'est ce qui va lui permettre de ne pas se lamenter ou d'écrire ses circonstances. Il pourrait en faire des dessins assez sombres pour que Dieu comprenne enfin ce qu'ils vivent. Mais il va prier depuis le ciel sur la terre, ça va avoir énormément d'impact. Et son secret, c'est un des versets qu'on a mentionné tout à l'heure, dans Romains 8:26, où il est dit « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ». Et le verset continue en disant que c'est lui qui nous donne les mots pour intercéder en faveur des autres. Quand on prie et qu'on ne sait plus quoi dire, ben Paul, à un moment donné, le Saint-Esprit lui-même va prier au travers de lui comme par des soupirs inexprimables. Et si Paul a pu être si efficace, tenir bon malgré tout, ça, il nous montre que c'est la prière par l'Esprit qui va lui permettre d'avoir des percées. Et d'ailleurs, le mot original grec qui est traduit par soupir inexprimable, ça veut aussi dire murmure. Donc si Paul a vécu le ciel sur la terre avec tous ses miracles, ses fruits pareils, c'est pas parce qu'il priait d'une belle façon, lui qui était comme ça intelligent, mais c'est parce qu'il a mis en pratique de prier par l'Esprit et finalement de prier comme avec des murmures. C'est qu'il n'était pas un surhomme, il était comme toi et moi. Et son secret, c'était la prière. Il priait les choses du ciel sur la terre. Mais il priait tellement que les mots, à un moment donné, ne lui suffisaient plus. Et il laissait carrément le Saint-Esprit prier au travers de sa bouche. Et on sait que la prière du juste a une grande efficacité. On sait aussi que la Bible nous dit qu'on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Mais si vous priez par l'Esprit, si c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de votre bouche, et que vous priez les mots que le Saint-Esprit vous donne, que vous priez la langue de l'Esprit, ça ne peut pas être à côté. Parce que vous allez prier ce que Dieu vous donne de prier. Donc si on ne reçoit pas parce qu'on demande mal, mais si on prie et puis que c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de notre bouche, les choses vont bouger. Et c'est ça la clé qui va permettre à Paul de prier de haut en bas et non pas de bas en haut, de penser par l'Esprit, de vivre par l'Esprit et surtout d'avoir un impact de dingue comme il l'a eu. C'est ça qui va lui permettre de ne pas être pris par le découragement, de vivre tout le temps des hauts, des bas, selon les circonstances négatives ou positives qu'il vivait, de tenir bon et d'avoir vraiment une vie si impactante, si on peut dire ce mot. Et Paul va parler de cette prière par l'Esprit, où on ne parle pas avec des mots de notre langue, le français pour nous, mais une langue de l'Esprit, une langue de l'Esprit, où on prie la langue de l'Esprit, où on prie en langue, c'est-à-dire le parler en langue. Pourtant, pour beaucoup ici, on connaît le parler en langue. On a déjà entendu, on a même reçu pour beaucoup ce don de l'Esprit. Paul en parle dans 1 Corinthiens 12 comme un don du Saint-Esprit, comme la prophétie, comme le don de guérison. Pour beaucoup ici, peut-être, on a été baptisé du Saint-Esprit et on prie en langue. de temps en temps. C'est un beau cadeau. Certains, je suis convaincu, espèrent encore ici, au milieu de nous, le recevoir, et ils ne l'ont pas encore reçu. Ils ont peut-être demandé en vain, et chaque fois, c'est peut-être un autre cadeau qui vous a été donné. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est un cadeau que Dieu veut donner pour tous. D'autres ont déjà reçu ce cadeau, du parler en langue, mais c'est un cadeau que tu reçois, puis c'est comme certains cadeaux que tu reçois, un bibelot, puis tu le poses sur l'étagère, puis c'est beau. Puis de temps en temps, quand tu en as besoin, ah ouais, c'était beau, puis tu le reprends, puis après tu le redéposes, puis de temps en temps, puis après, mais j'avais même oublié que j'avais reçu ce cadeau à Noël, puis tu le reprends un moment, et puis tu le remets, et puis de temps en temps, on l'utilise. Mais si tu ne le pratiques pas, ou peu, le parler en langue, c'est juste un décor, et ça ne va pas changer ta vie. 1 Corinthiens 14:2 nous dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Le parler en langue, ce n'est pas une prière humaine qui monte, mais c'est une prière de l'esprit qui nous relie directement au ciel. Mais notre raisonnement, notre corps, quelque part, il voudrait bien s'en passer. Le corps et l'âme n'aiment pas forcément se mettre sous l'esprit dans notre vie. Pour plein d'autres domaines, on peut se poser la question, mais dans ma vie, dans mon être, c'est quoi qui domine? Est-ce que c'est mon corps, c'est-à-dire ma chair et ses désirs, nourriture, sexuelle, etc.? Ou est-ce que c'est mon âme, mon intelligence, mon raisonnement, il faut que je comprenne tout? Ou est-ce que c'est mon esprit, c'est-à-dire cet espace en moi qui peut être rempli par le Saint-Esprit? L'esprit même de Dieu. Et dans la prière en langue, c'est un lâcher-prise. C'est plus notre raisonnement qu'à le-dessus. C'est plus notre raisonnement qu'à le-dessus, mais c'est une démonstration que notre esprit a le-dessus et domine. Et notre esprit est rempli du Saint-Esprit. Et moi, je veux vivre par l'esprit et j'ai envie de vivre ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. J'ai envie que ça colle entre ce que je lis et ce que je vis. Et la clé est là sous nos yeux. Sans faire maintenant un cours ce matin, j'aimerais qu'on regarde un tout petit peu ce que la Bible dit de se parler en langue. Quand on parle en langue, ce n'est pas juste une transe où tout à coup on est tellement saisi qu'on ne sait plus quoi ce qu'on dit. Notre corps est en action et c'est nous qui décidons, qui ouvrons notre bouche et qui décidons de parler et de laisser le Saint-Esprit parler au travers de nous. Moi, j'ai côtoyé des gens, notamment dans certains voyages que j'ai pu faire à l'étranger, où en fait le parler en langue, c'était plus vu comme tout à coup, ça bout tellement que la casserole déborde, puis ça part en langue. Bien sûr qu'on peut être saisi, mais je crois que c'est un don du Saint-Esprit et c'est nous qui pouvons choisir quand on commence de parler en langue et quand on termine de parler en langue. C'est un don qui vient du Saint-Esprit. C'est un cadeau du Saint-Esprit qu'il fait et qu'il veut nous donner quand il vient en nous. Ça fait partie du Pâques. Autant, et avant de voir à quoi ça sert vraiment, parce que j'ai envie qu'on regarde après à quoi ça sert, penchons-nous juste sur ce que c'est encore le parler en langue. C'est tout simplement une manifestation aussi du Saint-Esprit qui est en nous et qui parle. C'est quand une personne se met à parler une langue qu'elle n'a jamais apprise, parce que Dieu, c'est Dieu qui l'inspire directement. C'est une expression spirituelle et ça peut être une prière, ça peut être aussi une louange, ça peut être une déclaration de l'Esprit dans notre bouche, ça peut être une intercession. Là, je vous parle maintenant alors que je vous prêche en français. But I could speak to you in English. Ich könnte mit Ihnen auf Deutsch sprechen. Oder auch in Schweizerdeutsch, das kann ich auch. Mais le don des langues, ce n'est pas d'être multilingue, ce n'est pas ça le don des langues. Parce que si l'apprentissage des langues tombait du ciel, mais à quoi servirait encore l'application du Duolingo ou bien l'école Club Migros, hein? Mais pour faire juste une petite parenthèse par rapport au don des langues, il y a une facette du don des langues qui pourrait carrément être une langue étrangère apprise, comprise aussi. Hein. Lors du réveil à Topeka, au Kansas, une jeune femme nommée Agnès Osman a prié pour recevoir le Saint-Esprit. Elle s'est mise à parler en langue, c'était du chinois, et du coup elle a pu évangéliser les Chinois. Et dans le réveil d'Azusa Street à Los Angeles, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils sont mis à parler en langue et c'était identifiable comme langue. Certains, c'était le japonais, d'autres l'hébreu, l'espagnol, des dialectes africains. Et on trouve de témoignages de missionnaires qui ont pu atteindre des peuplades parce qu'ils leur parlaient en langue et puis les autres comprenaient le message de l'Évangile. D'ailleurs, c'est comme à la Pentecôte. C'est ce qui s'est passé. Ils pouvaient comprendre ce qui était dit. Dieu pourrait vous appeler en mission en Suisse allemande en vous donnant le parler en langue adéquat. Mais comme on vient de le voir, le parler en langue, c'est dire des mystères. Ce sont des mots qu'on va prononcer sans les comprendre. On ouvre notre bouche, on active notre langue. C'est nous qui la bougeons et les mots vont commencer à couler. Les mots vont commencer à couler sans qu'on les comprenne. Et Smith Wigglesworth, qui est un revivaliste, qui a vraiment vu d'innombrables guérisons, a dit la chose suivante, « Je ne peux pas comprendre. » On va y arriver. Ceux qui écoutent juste sur le site internet, sachez que s'il y a des petites pauses, c'est à cause des slides qui n'avancent pas. Mais voilà. Il a dit, Smith Wigglesworth, « Je ne peux pas comprendre Dieu par mon intellect, mais quand je prie en langue, mon esprit est en contact avec l'esprit du Dieu vivant. » Lui qui voit tellement de choses se passer, c'est ça qui dit « Mon esprit est en contact avec l'esprit du Dieu vivant. » On est en contact direct avec l'esprit de Dieu. Et c'est fou quand on voit les fruits qu'a eu cet homme. Ce n'est pas du blabla. Et petit témoignage, récemment lors d'une de nos soirées percées, c'est qu'on a tous les premiers jeudis du mois à Saint-Blaise, on vit vraiment, je vous encourage vraiment, on vit des temps où on intercède, on prie ensemble pour le réveil, que Dieu agisse, on veut vraiment se laisser diriger par l'Esprit, d'être enflammé, d'être saisi par une ferveur de prière. Quelqu'un m'a posé la question sur le parler en langue et m'a dit, j'ai déjà eu l'un ou l'autre mot, mais je ne les comprends pas. Et puis je lui ai expliqué, mais c'est normal que tu ne les comprennes pas, ces mots en langue. Non, on va pas forcément, on va pas comprendre ce qu'on dit. C'est pas non plus des mots qui nous viennent dans la tête, puis que tu vois même visualiser, enfin visuellement, puis que tout à coup tu vas prononcer. Mais c'est plutôt que tu décides comme d'ouvrir un robinet et tu dis un mot ou deux et ça commence à couler. Et l'esprit coule et il y a des mots, une langue nouvelle que tu connais pas qui va commencer à venir. Et c'est ça cette connexion à l'esprit. Et à la fin de la soirée, il m'a dit c'est bon, je prie en langue. Gloire à Dieu. Mais le parler en langue, c'est comme un flot qui sort de ton esprit en bypassant ton raisonnement et ton intelligence. Tu ouvres le robinet et c'est un flot qui coule en bypassant ton raisonnement, ton intelligence. Et je pense aussi qu'avec la pratique, notre langue, elle se développe toujours plus de mots, toujours plus, ça se développe, même si au début on n'a que quelques mots, ça se débloque comme le balbutiement d'un enfant, ça va évoluer au fur et à mesure. La fluidité, la richesse et le débit du robinet va augmenter. Et peut-être que quand tu parles en langue, c'est même, tu parles déjà en langue aujourd'hui, mais tu as peut-être besoin d'un upgrade, d'une mise à jour pour aller plus loin, ou de recevoir une deuxième ou une troisième langue. Moi, des fois, quand j'intercède pour un sujet en particulier, c'est comme une autre langue qui vient. C'est particulier. Mais Dieu veut élargir cette puissance de cette prière en langue. Et qu'on veut encore voir maintenant quels sont les rôles, à quoi ça sert vraiment, ce parler en langue. Parce qu'on se base vraiment avec ce message, c'est ce qu'on trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et la raison principale, je crois vraiment que c'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur ce message aujourd'hui, c'est pour s'édifier personnellement, c'est-à-dire en d'autres mots pour se fortifier soi-même intérieurement, que notre esprit devienne fort en nous par le Saint-Esprit. Si on mange plus avec notre corps, ben soit notre corps grandit, soit il grossit. Si on étudie plus, notre connaissance grandit. Et un des moyens pour que notre esprit en nous ne reste pas petit, c'est-à-dire comme un enfant, mais qu'il commence à entendre Dieu, qu'il commence à faire la différence entre ses propres pensées et les pensées de Dieu, qu'il commence à discerner ce qui est de Dieu et ce qui est humain, qu'il grandisse et devienne plus fort, c'est-à-dire puissant pour gagner des bras de fer spirituels, remporter des batailles, délivrer, guérir ou tenir bon, comme l'apôtre Paul. Pour cela, le moyen par excellence, c'est vraiment le parler en langue et surtout le pratiquer. D'ailleurs, tous les dons spirituels, le don des langues, c'est le seul qui est pour soi. Tous les autres sont orientés pour les autres. Mais le don des langues, c'est le seul qui est pour notre édification personnelle, pour qu'on grandisse. Et moi, j'ai envie que la partie esprit en moi ne reste pas petite. Je n'ai pas envie d'avoir un petit esprit ici. J'ai envie qu'il prenne de la place, toujours plus de la place. Et quand j'ai fait un message récemment, il y a un mois ou six semaines, sur le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, à un moment donné, il va nous bouger, il va bouger en nous. Et je prenais cette image, si tu as un embryon, quand il est tout petit, tu ne le sens pas bouger. Mais à partir de quelques mois, quand il a grandi, tu sens le bébé bouger. Et moi, j'ai envie que le Saint-Esprit en moi ne soit pas juste un petit embryon qui de temps en temps se manifeste un peu, mais que je ne sens pas bouger. Je ne sens pas quand il y a de la compassion, je ne sens pas quand il veut toucher quelqu'un d'autre. J'ai envie que le Saint-Esprit en moi il soit tellement grand que comme un bébé au 9e mois qui donne du coude, je sens quand le Saint-Esprit bouge en moi et veut que je puisse agir et me parle. Et j'aimerais que la partie en moi, la partie de l'esprit en moi soit plus forte, soit plus grande pour avoir un impact autour de moi. Plus fort que mes états d'âme, plus fort que mes réflexions, que mes raisonnements. Et 1 Corinthiens 14 nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc avant tout, ce n'est vraiment pas pour les autres. Mais on dit des mystères, des mots de l'esprit. Et la Bible parle même d'une langue des anges. 1 Corinthiens 13 nous dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Mais surtout, 1 Corinthiens 14, 4 va nous dire, celui, je ne sais pas si je suis au bon endroit ou si j'ai déjà trop avancé, je crois que j'ai trop avancé. Tu peux revenir en arrière, Claude, parce que j'arrive plus avec la télécommande. Au slide d'avant. Voilà, on va avancer. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même et on continue. C'est pas grave. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et le mot grec utilisé pour dire s'édifier, oikodomeo, ça veut dire bâtir une maison, construire, fortifier. Et donc quand tu pries en langue, tu construis ton être intérieur, la partie esprit en toi grandit. Comme on vient de le voir, l'enfant grandit pour devenir spirituellement mature. Et on en a besoin parce que nos émotions, notre mental, ça change des fois d'un jour à l'autre, mais l'esprit ne faiblit pas. Et Jude 1 nous dit, 1:20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant, donc vous construisant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » Priant par l'Esprit. Et prier par l'Esprit, ça nous construit dans cette foi sainte, ce qui nous garde fort et rempli de foi. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 14:18, « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Ce Paul dont on a dit un peu tous les exploits avant, son secret, c'est qu'il parlait en langue plus que n'importe qui. Ce n'est pas qu'il se vante, mais c'est pour ça qu'il a pu implanter tant d'églises, qu'il a pu tenir bon quand il était en prison, quand il était maltraité. C'est pour ça qu'il a pu tenir bon, prier pour les gens et voir tant de choses se passer, des signes, des prodiges, et avoir des révélations de Dieu. C'est ça qui lui a permis de faire tout ça malgré les circonstances. Et c'est pour ça qu'il dira aussi quelques versets plus loin, « Aspirez au don de la prophétie, mais n'empêchez pas de prier en langue. » Tu peux passer, Claude, juste presser, voilà. N'empêchez pas de prier en langue. C'est ce qu'il dit, aspirez aux dons, désirez-les tout votre cœur. Surtout à la prophétie qui permet de parler à quelqu'un d'autre, les paroles de Dieu, et que l'autre comprenne. Mais surtout, ne remplacez pas le parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. Ça fortifie tellement. C'est ce qui vous permet de grandir intérieurement. C'est ce qui vous permet de devenir des chrétiens forts. C'est ça son message. Et prier en langue, c'est comme charger sa batterie spirituelle. D'ailleurs, Oral Roberts, un évangéliste qui a vu des milliers de guérisons et de miracles, a dit la chose suivante. « Quand je prie en langue, c'est mon esprit qui parle directement à Dieu. C'est comme brancher une prise dans la puissance de l'esprit. » Et à l'heure, aujourd'hui, ce n'était pas le cas quand il a écrit ça, mais à l'heure des voitures électriques, si tu branches ta voiture électrique seulement quand tu en as besoin, ça ne va pas être très efficace. Tu dis, ah tiens, je dois faire des commis. Ah ben, je vais brancher ma voiture. Or, tu la branches un petit coup, et puis tu peux rouler un petit coup. Et puis c'est tout. Non, on ne va pas faire ça. On va la brancher continuellement à l'électricité, et puis quand on aura besoin, tu peux rouler. Si tu pries en langue un petit coup, ça va t'aider un petit coup. Et c'est pour ça que Paul, il dit, mais qui prie en langue énormément et constamment et que ça fait partie de sa vie et qu'il prie de plus en plus, ça lui permet à n'importe quel moment d'être dans l'esprit, de prier pour quelqu'un, de recevoir une pensée, parce que c'est là en lui. Il ne doit pas tout à coup se dire « Ah, il y a quelqu'un qui est malade, il faudrait que je branche ma prise. Prier, Seigneur, dans quel sens prier? C'est ta volonté, pas ta volonté? Qu'est-ce que je dois dire? Donne-moi les mots. » Si tu es tout le temps branché, c'est là, tu es chargé, tu es connecté, comme on a vu avant, c'est une connexion avec l'esprit du Dieu vivant. Et on voit le résultat, quand tu pries en langue, ta batterie spirituelle se charge et quand on a besoin, tu es prêt à agir. Si tu vois quelqu'un dans le besoin, tu es prié pour un malade ou entendre la voix de Dieu pour un choix, c'est là, tu es connecté. Et en priant en langue beaucoup, ton être spirituel grandit, tu es édifié, tu tiens bon. Et surtout, tu n'es pas à plat spirituellement où chaque fois, il faudrait recommencer à zéro. Tu es prêt à agir à tout moment, ça devient un style de vie. Personnellement, qu'est-ce que je prie en langue? J'aime ça. Il faut aussi des fois faire l'effort de me dire, ben tiens, je vais le faire maintenant. Mais qu'est-ce que je prie en langue aussi sous la douche, par exemple? Tous mes shampoings sont convertis. ou mon produit, les nombreux produits de ma femme, ou en voiture. Plutôt que d'écouter toujours les mêmes chansons des années 80 de RTN, qui a oublié qu'on était en 2025. Je ne règle pas mes comptes ici, mais... je prie en langue et encore en langue. Ça me booste tellement. Si je suis découragé, lassé, fatigué, je prie en langue. Vous pouvez questionner mon entourage. Combien de fois, quand quelqu'un me dit « je suis préoccupé, je suis fatigué, je suis découragé », je dis « va prier en langue un coup ». C'est tellement efficace, ça change tout. Fais une fois l'exercice d'aller dans ta chambre et puis tu te dis « je vais dans une chambre où je suis seul et maintenant je prie en langue 5 minutes ». Tac, chrono. Ou fais-le 10 minutes. Maintenant, je vais et je prie en langue 10 minutes. Sans expliquer tous nos machins, envoyer tous nos dessins, nos états d'âme, pour qu'enfin Dieu comprenne. Prie en langue. Tu te connectes à l'esprit du Dieu vivant. Il y a une autorité qui vient en toi. Ça fait grandir ton être spirituel. C'est puissant, mes amis. C'est puissant, ce don. C'est ça qui fait que Paul il a été si efficace. Et il en parle beaucoup, mais on laisse ça de côté. On se dit, ça, c'est pour les gens un peu plus spirituels, charismatiques, c'est un peu ceci, cela. Mais quand tu vois Paul, l'effet que ça a eu sur sa vie, ça change la vie. Et le parler en langue, ça sert aussi à intercéder. Ça sert aussi à intercéder, pas seulement à être édifié soi-même, mais à prier pour les autres, à faire une demande. Romains 8, qu'on a lu déjà avant, qui dit que dans notre faiblesse, on ne sait des fois plus quoi dire, quoi demander. Mais l'Esprit lui-même intercède. Et intercéder, c'est demander en faveur de quelque chose d'autre. Il intercède par des soupirs inexprimables, par ses murmures. C'est ça, les langues. C'est là qu'on voit que le parler en langue est génial, parce qu'en plus de te rendre fort, tes prières vont devenir efficaces. Comme on a vu, prier de haut en bas, quand on est connecté dans l'esprit, on va prier les choses de Dieu. Et 1 Jean 5, 14 nous dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » C'est fort. Mais le meilleur moyen pour prier les choses selon sa volonté, c'est de prier en langue, c'est de prier par l'Esprit. Le Saint-Esprit qui va prier au travers de toi, il va prier des bonnes choses. Hein. Il ne va pas prier à côté de la plaque du Père. Il va prier selon le cœur du Père. Il va prier selon la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit va prier les bonnes choses. Et notre âme peut-être va regretter parce qu'elle aime tellement écouter nos descriptions et nos difficultés décrites de A à Z. Ou encore expliquer à Dieu quoi faire. Mais Éphésiens 6, 18 nous dit « Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. » Priez sans cesse, c'est cette prise qui est constamment connectée. Et faites vos prières par l'Esprit. La Bible, elle est tellement claire. Et prier dans la langue de l'Esprit, pour moi, c'est une clé. Et pourtant, tout en nous, notre intellect, nos émotions, nous poussent à ce qu'on fasse plutôt des prières humaines, des longues descriptions, et qu'on prie tout simplement de bas en haut. Et Paul Harrison, dans un livre que j'ai lu il y a longtemps, mais qui a vécu vraiment, il vivait des choses puissantes avec des anges qui venaient dans son salon, dans sa maison, au milieu de la nuit, vraiment des trucs forts qui vivaient cet homme. Et il a écrit ça dans un livre et il a dit « Or, j'ai réalisé avec émerveillement que prier par l'esprit en diverses langues, c'est comme voler en pilotage automatique. Moins je faisais d'efforts dans ma prière, plus le Saint-Esprit s'élevait avec puissance en priant par ma bouche. » C'est lui qui jouait le rôle d'intercesseur avec très peu d'efforts de ma part. Yes. Il vivait des choses tellement folles, cet homme. Donc, il raconte pas juste des bobards. Et pour moi, l'intercession en langue, c'est la langue du ciel qui envahit les besoins de la terre. C'est la langue du ciel qui envahit les besoins de la terre. Et un autre rôle du parler en langue, c'est que ça libère aussi, et là je vais aller rapidement, qui libère la révélation de Dieu. On a vu que le parler en langue, c'est pour s'édifier soi-même. Mais il est aussi dit qu'à un moment donné, on peut prier en langue dans 1 Corinthiens 14. Et il est dit que si quelqu'un prie en langue à haute voix, il faut que quelqu'un interprète. Et celui qui interprète, il va soit traduire ce que l'autre dit, ou des fois, plutôt que de comprendre mot à mot, ça va ouvrir une voie et il y a une parole de Dieu qui est donnée. Il y a un parler en langue et quelqu'un va amener le message de Dieu pour que tout le monde le comprenne et que les autres soient vraiment édifiés. Et j'ai trouvé très fort quand même le témoignage il y a 15 jours de Jérémy Bader avec son fils, où la femme de Jérémy, elle va prier pour son fils et pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, pour qu'il parle en langue. Et ce petit de 2 ans et demi qui va prier en langue. Et qu'est-ce que ça a produit ? C'est qu'il a vu Jésus. Il a dit « J'ai vu Jésus ». il a 2 ans et demi, il prie en langue, et qu'est-ce que ça produit? C'est pas juste qu'il est devenu un petit chrétien illuminé, il voit Jésus. Et vous savez, quand on est enfant puis qu'on a des expériences puissantes avec Dieu, ça te marque à vie. Parce que c'est pas juste des blabla des parents que tu as entendu, tu as rencontré Dieu et tu le restes plus tard, chrétien. Et là, il a vu Jésus. Et puis Jérémie nous disait, je lui ai demandé comment il était Jésus du coup, parce que ça l'intéressait. Moi aussi, ça m'intéressait. Et puis il a dit, il pensait qu'il allait le décrire comment il était. Et puis ce petit 2 ans, il a juste dit, il est bon. Il est bon. C'est fort, c'est fou. Vous voyez l'effet que ça fait. À 2 ans et demi, il parlait en langue, ça a libéré une révélation de Jésus dans sa vie. Quand tu pries en langue, déjà tu vas ne plus être sous cette chape de soucis ou de découragement, mais tu vas commencer à avoir des révélations de Dieu. Tout à coup, quand tu lis la Bible, ce n'est pas juste ennuyeux, mais il y a tout à coup des mots qui te parlent. La parole de la Bible devient vivante. Et la Bible parle aussi des langues comme un signe pour les non-croyants. 1 Corinthiens 14, 22, il est dit, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules. Et c'est ça qui s'est passé à la Pentecôte dans Acte 2, quand ils ont commencé à prier tous en langue. La multitude accourue, elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Et là, ils ont même compris des langues étrangères, que c'était pour eux. Et enfin, alors que j'ai bientôt terminé, le parler en langue, c'est aussi pour adorer, pour chanter, chanter en langue. Lorsqu'on prie, on adore aussi. L'Esprit, au travers de nous, il va aussi glorifier le Père. Acte 10, 46, il est mis, question de croire, les croyants entendent ces gens parler en langue, des langues inconnues, et chanter la grandeur de Dieu. Prier, adorer en langue, ça nous centre sur Jésus. Et c'est ça qui permet de vivre cette adoration dont il est question dans Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il y a les deux. Ou 1 Corinthiens 14, 15 qui nous dit « Je chanterai avec mon esprit. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. » Il y a les deux. Et je m'encourage en tant qu'Église Passion à aller plus loin dans le chant par l'intelligence. C'est des beaux chants que des gens ont composés, qui sont parlants, qui ont des mots, il y a peut-être même des rimes, je ne sais pas. C'est super. Il faut poursuivre là-dedans. Mais chanter aussi, comme le dit 1 Corinthiens 14, chanter avec mon esprit et avec mon intelligence, et aussi chanter par l'esprit, chanter dans cette langue qui adore le Père comme on n'a plus de mots, tellement il est magnifique. C'est ça, ça amène une dimension du ciel. Et non seulement on est unis si on chante en langue ensemble, non seulement on est unis d'un même cœur ensemble, forcément, si on est tous remplis par le même esprit, mais c'est une adoration unie qui monte vers le Seigneur, et ça, c'est glorieux. Ce n'est pas juste bizarre, c'est puissant. Et mes amis, le Saint-Esprit n'a pas donné les langues comme un gadget pour les chrétiens un petit peu plus spies, mais c'est une clé pour vivre au-delà du naturel. Et je crois ce matin que Dieu veut nous pousser plus loin, nous rappeler que cette arme secrète, ou ce bibelot-là sur l'étagère, c'est quelque chose de tellement puissant si on le pratique. Et aujourd'hui, je crois vraiment que c'est le moment pour certains de le recevoir, qui ne l'ont peut-être jamais reçu. Pour d'autres, je suis convaincu que c'est une mise à jour que Dieu veut faire, c'est-à-dire un souffle nouveau dans ce cadeau de langue, un élan vraiment aussi pour le pratiquer, un feu qui fait qu'on le pratique pour que ça change les choses ici sur la terre. Et à la suite du texte de l'armure du chrétien, Paul nous dit dans Éphésiens 6 de prier en tout temps par l'Esprit. Et je crois vraiment qu'une église remplie de puissance, c'est une église de prière. Et une église de prière, c'est une église qui prie en langue. C'est-à-dire une église qui prie les mots de l'Esprit pour que ce qui est de l'Esprit et du ciel s'accomplisse ici. Et c'est ça qui amène une percée puis qui fait la différence. Et pour conclure, on a parlé souvent du but, c'est-à-dire du réveil, de la guérison. Ce matin, je vous parle plutôt du comment. C'est comment arriver à ça? Comment vivre ce dont on rêve? On rêve de voir nos amis non-chrétiens se convertir. On rêve de voir les gens pour qui on prie être guéris. On rêve qu'enfin le monde, les médias comprennent que Dieu est vivant. On rêve d'entrer pleinement dans l'appel que Dieu a déposé dans nos vies se manifeste. Mais à part si on est sous une chape d'abattement ou de fatigue spirituelle, on va rêver ces choses. Mais là où Dieu veut nous toucher, c'est le chemin pour y arriver. Le comment y arriver, le jour après jour. Et c'est là que Paul nous montre clairement comment y aller, comment capter cette eau, cette vie qui fait qu'on porte du fruit. pour que notre arbre reste vert, même quand c'est l'hiver. Et cette clé, ce comment, c'est cette prière en langue abondante, abondante, qui coule, ce robinet qu'on ouvre, cette prière de haut en bas qui fait descendre la volonté de Dieu sur la terre. Et si on est tous d'accord sur la finalité d'un grand réveil qui nous fait rêver ou d'une vie avec davantage de fruits, qui n'aimerait pas juste voir des gens être sauvés ou être guéris quand on prie pour les gens? Ou bien, ça commence par une faim, une soif, bien sûr. Et ça, c'est tellement important d'avoir cette faim et cette soif de plus et pas d'être tiède. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que ça continue par des actes. Ça continue par des actes. Et le parler en langue, c'en est un. Imaginez, j'ai quasi fini, mais un jeune footballeur, un jeune, s'il rêve de faire la différence, de marquer des buts pour sa ville ou même son pays, il a beau rêver de ça, regarder les matchs à la télé de ça, regarder les replays sur YouTube de ça, comme nous les messages. Il a beau admirer les joueurs, comme on pourrait admirer des ministères, ou lui c'est les joueurs sur les autocollants Panini. Il existe heureusement, Dieu merci, pas encore d'autocollants Panini des ministères. Mais des fois, quand on regarde les réseaux sociaux, c'est pas loin de ça. Enfin, excusez-moi, mais c'était hors de mes notes, ça. Mais ce qui va vraiment lui permettre à ce jeune de devenir le joueur qu'il rêve d'être, c'est un entraînement régulier. C'est un choix de vie en conséquence. Ce petit garçon, s'il va devenir un jour un bon footballeur, c'est pas juste YouTube, c'est parce qu'il va s'entraîner souvent. Et là, le groupe Louange, vous pouvez déjà venir parce qu'on a bientôt fini. Mais Paul a vu le réveil, ou encore aujourd'hui les écrits de tout ce qu'il a fait. On a vu que la clé qui nous partage, c'est prier par l'Esprit. Et je vous rappelle ce verset que j'ai lu dans 1 Corinthiens 14. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » C'est ça le secret de Paul. Et il va nous dire, et ça je ne l'ai pas encore lu, dans 1 Corinthiens 14, verset 5. 1 Corinthiens 14, verset 5, il va dire « Je désire que vous parliez tous en langue. » C'est ce que nous dit Paul. Ça fait aussi partie de la Bible, vous pouvez le trouver ce verset, je ne l'ai pas inventé. « Je désire que vous parliez tous en langue. » Ce n'est pas juste pour quelques-uns, les plus flyés de ton groupe ou de l'Église. C'est pour tout le monde. C'est tellement efficace. Ça amène tellement de choses, ça fortifie tellement. Ça change tellement la vie. Quand on voit Paul qui faisait ça plus que chacun, mais tout ce qu'il a pu faire de plus, il a tellement chargé sa voiture qu'il a pu aller tellement loin aussi. Des hauts, des collines, monter des montagnes. Et pour terminer ce message, je vous partage la citation d'un fameux homme de foi, Kenneth Hagin, qui a dit la chose suivante. « Le parler en langue, c'est la porte vers le surnaturel. C'est le chemin par lequel les choses de l'esprit réelles deviennent réelles dans nos vies. » Et ce n'est pas un hurluberlu qui le dit. Il a vu tellement de miracles se manifester et il va dire que le parler en langue, c'est la porte vers le surnaturel. Et je vous laisse le dernier mot, le mot de la fin, comme j'aime toujours le faire, c'est en revenir à Jésus, qui va dire dans Marc 16, 17, il va dire ces choses juste avant de monter au ciel. C'est ses derniers mots pour vous, pour moi, aujourd'hui. Voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons. Parler de nouvelles langues. Et ce mot nouvelle peut être traduit par étrangère, étrange. Ils pourront chasser des démons, parler des nouvelles langues, des langues étranges, parler en langue, quoi. Attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront leurs mains sur les malades et les malades seront guéris. Parler en langue, ça fait partie du dernier souhait, la dernière volonté que Jésus a faite avant de monter au ciel. Il a parlé du parler en langue. D'imposer les mains, de la guérison et de la délivrance. Ce n'est pas un détail, c'est la clé qui change tout. C'est ça qui déverrouille le ciel sur la terre, et j'en suis convaincu. Et je crois que peut-être pour aujourd'hui, pour certains, c'est nouveau. Et Dieu voudrait vous donner ce cadeau, ce don des langues, de pouvoir vous connecter à l'Esprit vivant, à ce Dieu vivant, à ce ciel, pour que ça change vos circonstances et la terre. Pour d'autres, vous l'avez reçu, mais c'est un bibloc qui est là sur une étagère, que vous avez reçu à l'époque ou de temps en temps peut-être vous l'utilisez. Mais ce qu'il aimerait faire, c'est amener un élan nouveau à ce don qui change les choses vraiment, véritablement. Et ce que j'aimerais faire, c'est qu'on puisse prendre un chant, qu'on puisse déjà peut-être tous se lever. On va prendre un chant où on va demander à cet Esprit de Dieu de descendre au milieu de nous, de déchirer ce ciel. Et ensuite, je vais faire un appel parce que je crois que Dieu désire aujourd'hui parler à des personnes vraiment en particulier. Il désire vraiment appeler. Toi qui n'as peut-être encore jamais parlé en langue, il désire t'immerger dans l'esprit. Il désire débloquer ce robinet pour que tu puisses rentrer dans cette dimension forte et puissante. Et si tu parles et que tu as quelques mots ou que de temps en temps tu l'utilises, il aimerait te donner cette abondance vraiment dans ce don, que ça fasse partie de ton style de vie, que ta prise soit branchée constamment et que tu puisses être un outil dans les mains de Dieu. Qu'il y ait un élan nouveau de son esprit. Alors prenons ensemble ce chant et qu'ensuite vous puissiez, tu peux même déjà pendant ce chant t'avancer et on va prier. Je ferai encore un appel après, mais viens déjà pendant ce chant et chantons, demandons à Dieu d'agir au milieu de nous. Alléluia.